C'est le chant de la naissance. C'est le chant de l'espérance. Ce chant nous vient de loin. Il a parcouru les pays et les siècles depuis une étable obscure près de Bethléem en Judée. Rien n'a été capable de l'interrompre. Ni la folie des hommes, ni la violence aveugle, ni la paresse, ni l'oubli, ni même la tentation de congédier Dieu en dehors de nos vies. Cette année, ce chant retentit au cœur de crises multiples qui sèment l'inquiétude et le désordre, la tristesse et la division. Jésus lui-même n'est-il pas né au milieu du chaos? Or, il apporte à tous les hommes, hier comme aujourd'hui, la lumière qui brille dans nos ténèbres, l'espérance qui transforme notre désarroi, la paix qui chasse toute haine. Avec la naissance de Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient jusqu'à nous et qui nous invite à venir jusqu'à lui. À la suite des bergers qui arrivèrent les premiers, nous approchons ce soir de la crèche devant laquelle se rassemble l'humanité tout entière, enfin réconciliée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ce peuple était celui de Dieu. Peuple choisi parmi tous les peuples pour recevoir le trésor de l'Alliance. Peuple sans cesse assailli et menacé par des armées plus puissantes que la sienne. Peuple brisé surtout par son propre péché. La nuit s'est abattue sur lui jusqu'à recouvrir l'horizon tout entier. Sa marche se poursuit, mais un peu à la manière des automates qui ne savent plus où ils vont. Dieu, pour sa part, renouvelle toujours sa confiance en suscitant des hommes capables de porter une parole emplie de clarté. Et c'est ainsi qu'arrive, un jour du temps, le prophète Isaïe, lequel indique à son peuple un horizon nouveau, dégagé de toutes les angoisses du passé. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Nous sommes aujourd'hui de ce peuple appelés à marcher vers la lumière qui vient, la lumière donnée par Dieu, la lumière de Dieu en personne. Les sources de ténèbres autour de nous et en nous semblent si nombreuses et diverses qu'il n'est pas tellement possible de les énumérer. Tant de personnes autour de nous, et sans doute parmi nous, peinent à disposer leur cœur pour célébrer la joie de Noël. Cette nuit se révèle à tous la douceur infinie de Dieu qui vient habiter au cœur de notre humanité et qui visite nos ténèbres intérieures. Laissons-nous rejoindre par lui, sans crainte de déposer entre ses mains tous nos fardeaux, en commençant par ceux que nous ne pouvons plus porter nous-mêmes. Pour son peuple, dit encore Isaïe, Dieu a fait grandir l'allégresse, cette joie si profonde et vitale de découvrir que nous sommes aimés par lui d'un amour absolu. Il existe cependant un paradoxe qui ne devrait jamais cesser de nous émerveiller et aussi de nous surprendre. C'est l'abaissement de Dieu qui choisit de devenir l'un des nôtres. De sa toute-puissance, nous aurions plutôt attendu une démonstration de force, quelques prodiges renversants ou encore un grand miracle qui aurait convaincu tout le monde. Or, il a préféré se manifester sous les traits d'un enfant. Et c'est cela, le miracle. le mystère, notre étonnement. Cette naissance, nous l'avons entendue, se déroule un peu en secret, à l'abri des regards, dans des conditions de profonde humilité. Dieu n'a pas disposé ainsi un décor émouvant et romantique pour nous réchauffer le cœur transi par les rigueurs de l'hiver. Il emprunte réellement le chemin exigeant de la faiblesse et de l'extrême fragilité. La méfiance et l'indifférence, l'hostilité et le délire du roi Hérode, l'incrédulité et l'aveuglement auraient pu avoir raison de son projet en faveur des hommes. Du reste, les premiers à venir adorer le Christ et à reconnaître en lui le visage de Dieu ne sont pas les puissants ni les savants. Ce sont des bergers, des marginaux, des hommes de l'ombre. La simplicité de leur foi lance un avertissement contre toutes nos prétentions de gens savants et instruits, nos certitudes contemporaines de pouvoir nous passer de Dieu sous prétexte que nous maîtriserions la connaissance et l'expérience. Les bergers nous indiquent plutôt le chemin de la reconnaissance et de l'humilité. Ils ne craignent pas de marcher dans la nuit, car ils se dirigent vers la crèche d'où jaillit la source éternelle de toute lumière. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous aimez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur. Tel est celui qui vient à nous, celui en qui la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, selon les mots de Paul. Pour accueillir cette promesse du salut, il convient d'abord de reconnaître que nous avons réellement besoin d'être sauvés, que nous ne sommes pas autosuffisants, que nos initiatives humaines, même les plus généreuses, sont toujours limitées. D'une manière inattendue, il se pourrait que les difficultés que nous subissons tous depuis des mois nous aident à retrouver le sens du salut. Ce fléau, disait notre pape François au début de cette semaine, est une grande occasion de nous convertir et de retrouver une authenticité. De quoi devrions-nous donc être sauvés ? Chacun d'entre nous est appelé à discerner ses fragilités intimes, ses vulnérabilités, ses craintes et ses incapacités. Chacun d'entre nous réagit différemment face aux difficultés et aux menaces qui surviennent et qui bouleversent notre vie, nos habitudes ou encore nos projets. Mais tous, nous recevons la même espérance. Le Christ s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier. De lui qui naît aujourd'hui, nous recevons toutes choses nouvelles et nous pouvons renaître à l'espérance. De lui, nous n'avons rien à craindre, mais tout a commencé. Il nous met en marche à la suite des bergers et des mages, à la suite des apôtres et des disciples, à la suite de tous ceux qui ont placé en lui leur confiance et leur amour. Par lui, nous devenons frères et sœurs les uns des autres, témoins de cette grande nouvelle. Le Sauveur est né, et pour nous, il accomplit des merveilles.